enregistrement, ce qui paraît qu'il y a des gens qui écoutent sur Internet des fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent parfaitement satisfait, mais complètement satisfait? Satisfait émotionnellement, satisfait physiquement, satisfait spirituellement. Quelqu'un en fait qui n'a pas de besoin, qui a atteint la destination idéale dans sa vie, qui ne ressent pas du tout le besoin d'aller ailleurs ou plus loin dans sa vie. Quelqu'un qui est juste satisfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici aujourd'hui? N'hésitez pas à lever la main parce que je vous céderai ma place bien volontiers parce qu'en fait on aimerait bien savoir comment vous avez fait pour arriver à ce stade de la satisfaction, du contentement complet, total. La réalité, c'est que on a tous en nous, me semble-t-il, et là, c'était la dernière chance que vous aviez de manifester votre objection, hein, parce qu'en fait, il me semble que tout le monde a cette insatisfaction profonde en lui. C'est ce manque de contentement, cette frustration dans beaucoup de domaines, je le disais, dans le domaine émotionnel, il y a toujours quelqu'un dont on aimerait avoir un peu plus d'amour, d'appréciation, ou quelqu'un qu'on aimerait aimer. Il y a toujours quelqu'un qui manque dans notre vie. Peut-être au niveau physique, on a envie d'être plus grand, plus gros, moins gros, plus beau, moins beau, peut-être pas. Mais en tout cas, on a toujours des frustrations. Et alors, bien sûr, sur le plan spirituel aussi, on aimerait être sûr de ce qu'est le sens de la vie. On aimerait être sûr de ce qu'il y a après la mort, si toutefois il y a quelque chose après la mort. On aimerait être sûr de l'existence ou non de Dieu. Alors on a cette frustration en nous, n'est-ce pas, qui nous caractérise tous, je pense, et je pense pouvoir le dire sans prétention, qui nous caractérise tous en tant qu'êtres humains. Alors saint Augustin, un père de l'Église, théologien, philosophe, qui a vécu il y a très très longtemps, il a comparé l'homme à un pèlerin. Il a dit que l'homme c'était comme un pèlerin dans le monde. Un pèlerin c'est quelqu'un qui appartient pas à l'endroit où il est, si vous voulez. Un pèlerin c'est quelqu'un qui est en voyage, en déplacement, qui n'est pas chez lui. Mais un pèlerin, c'est pas quelqu'un qui erre sans but. C'est pas quelqu'un qui voyage pour faire du tourisme. C'est pas quelqu'un qui voyage pour le plaisir, le pèlerin. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui voyage parce qu'il a une destination qu'il compte rejoindre. Et le psaume 84, dont on va lire quelques versets ce soir, et qui va retenir notre attention ce dimanche et les deux suivants, c'est un psaume qui a été qualifié par certains du chant. Le chant du pèlerin ou des pèlerins. Et en fait, dans ce texte, on a le chant de quelqu'un qui est en voyage et il sait, lui, où il va. Et ce chant était vraisemblablement chanté par les Israélites il y a très très longtemps quand ils prenaient la route pour se rendre au lieu de culte des Israélites de l'époque, qui était à Jérusalem. Il y avait un seul lieu de culte, hein, c'était le temple qui était dans la capitale à Jérusalem. Et donc, régulièrement, les Israélites qui n'habitaient pas à Jérusalem, ils devaient faire une longue route, un long trajet pour se rendre là-bas, pour adorer Dieu à travers tout ce qu'il avait mis en place. Et on découvre tout ça dans l'Ancien Testament. Il y avait des sacrifices, il y avait des choses particulières à faire. Et en chemin, ils chantaient notamment le psaume 84. C'est comme vous, quand vous faites une rando, et vous chantez un kilomètre à pied, ça use, on chante encore ça de nos jours, non? Enfin, peut-être que c'était juste à mon époque, mais c'est le chant qui est censé faire passer un peu les kilomètres, si vous voulez, qui est censé vous donner un peu du courage, vous faire patienter sur le chemin. Mais là, ça va bien plus loin, parce que le psaume 84, il n'est pas juste censé faire passer les kilomètres, mais il est vraiment censé puissamment encourager les pèlerins sur leur trajet, en leur faisant contempler de façon, anticipatoire, si vous voulez, la destination vers laquelle ils vont. Et au cours des trois prochains dimanches, ce soir donc les deux prochains, on va voir quelle est la destination des pèlerins, mais on va voir ensuite aussi dans les deux couplets suivants, quelle est la détermination des pèlerins, et aussi quelles sont les directions qu'ils vont suivre pour leur voyage. Mais aujourd'hui, on s'intéresse simplement à la destination du pèlerin. Est-ce que vous savez, avant qu'on lise le texte, est-ce que vous savez quelle est la destination de votre vie ? Vous étiez d'accord avec moi hein, pour dire que tout le monde avait des frustrations à l'intérieur. Personne n'était vraiment satisfait. Personne ne peut dire « Moi, je suis arrivé à destination dans ma vie. J'ai pas besoin d'aller plus loin. » On est donc tous des pèlerins. Mais est-ce que vous savez où vous allez? Ou bien est-ce que vous êtes un pèlerin qui erre, sans but, un vagabond? Quelle est la destination, si vous en avez une? Quelle est-elle, cette destination que vous cherchez? Et est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne? Vous êtes en voyage, mais vers où? Est-il possible que Dieu ait prévu pour nous la destination idéale? pour notre pèlerinage, pour nos pérégrinations tout au long de notre vie. Est-il possible que Dieu ait prévu la destination idéale? Est-ce qu'elle existe finalement, cette destination? Je pense que oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers des 5 premiers versets de ce psaume. On va voir successivement, vous avez le plan dans le bulletin, quels sont les symptômes du manque que nous ressentons, quelle est l'explication de ce manque et enfin, quel est le remède à ce manque. Tout cela pour retenir une idée simple. Je sollicite votre attention pendant les 3 prochaines secondes, car c'est tout le message dans cette leçon. Nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Pas compliqué. Nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Et en fait, c'est la leçon des premiers versets de ce psaume. On va le lire. Hein. Psaume 84, versets 1 à 5. En titre, on a « Au chef de chœur, sur la guittite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire. Elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Pause. C'est dans le texte. Voilà, pour la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous savons qu'elle vient de toi, qu'elle est inspirée par toi. Utilise ce texte pour nous édifier, pour nous éclairer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces quelques versets, l'auteur manifeste un désir profond, intense, irrésistible. Le langage qui est employé est très, très fort. Le pèlerin ici, ou le psalmiste, ou tout simplement l'auteur de ce texte, le poète, aspire à quelque chose, mais de tout son être. Il aspire à quelque chose, ou plutôt il aspire à quelque part, à un endroit. Et il dit que ce désir se manifeste émotionnellement, d'une part. Verset 2, tes demeures sont chéries, je les aime, j'éprouve de l'amour pour cet endroit. Et ce désir se manifeste donc émotionnellement, mais aussi physiquement. Verset 3, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Et il se manifeste aussi spirituellement. Verset 3 encore, mon âme soupire, tout mon être désire un endroit, quelque part. Une destination, on verra dans un petit moment ce que c'est que cette destination. Est-ce que vous avez déjà remarqué que nos besoins les plus fondamentaux se manifestent dans tout notre être? On a des bébés, Suzanne et moi, depuis 2 mois, et puis je sais qu'il y en a d'autres dans l'église qui ont des jeunes bébés. Et un bébé, c'est vraiment curieux, parce que quand il a faim, il n'ouvre pas la bouche pour dire « j'ai faim », bon, il ne sait pas parler, d'accord. Mais il pourrait juste pleurer. Non, mais il ne pleure pas seulement. Il transpire, il gesticule, il pédale, il donne des coups de poing. Son désir de nourriture se manifeste dans tout son être. On a l'impression que son monde s'effondre s'il ne peut pas manger. Et jusqu'à ce qu'il puisse manger, effectivement, il est dans une forme d'agonie. Enfin, si on le regarde, il y a de quoi s'inquiéter. Et nous, on l'a en double, hein, avec nos jumeaux. Quand nos bébés ont faim, leurs besoins se manifestent dans tout leur être. Et pourtant, à leur âge, les bébés ne sont pas vraiment capables d'identifier intellectuellement leurs besoins, ni de comprendre intellectuellement ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, il suffit de leur mettre n'importe quoi dans la bouche, ils se mettent à le téter, même s'il n'y a pas de nourriture qui va sortir. Et de la même façon, je crois qu'on est un peu des bébés à certains égards, parce que nos besoins les plus fondamentaux se manifestent aussi dans tout notre être. Et nous ne les comprenons pas toujours, ces besoins. Toutes les frustrations que vous ressentez, que vous identifiez dans votre vie, que ce soit des frustrations émotionnelles, physiques ou spirituelles, elles expriment un besoin profond. Et il est possible qu'aujourd'hui, vous ne sachiez pas encore quel est ce besoin en fait. que vous ne soyez pas capable encore de mettre des mots dessus, de l'identifier même intellectuellement, comme un bébé qui a faim, et il sait qu'il a faim, mais en même temps il ne sait pas que c'est vraiment la faim qu'il ressent. Simplement, il n'est vraiment pas confortable, il est frustré, il n'est pas satisfait, et ça se manifeste dans toutes les dimensions de son être. Nous sommes ce genre de pèlerins en voyage, sauf que nous, contrairement aux psalmistes, bien souvent nous ne savons pas vers quelle direction nous devrions tendre, où est-ce que nous devrions aller. Regardez les deux ou trois derniers millénaires de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, et vous en avez la preuve flagrante. On a l'impression, quand on constate l'histoire des hommes, on a l'impression de voir un essaim de mouches surprise par le propriétaire de la maison et qui ne savent pas dans quelle direction voler pour trouver un abri. Ça encore, c'est la saison chez nous. Les mouches, le matin, on se lève, on arrive dans la cuisine et on réveille les dizaines de mouches qui ont passé la nuit là. Mais elles sont paniquées et elles ne savent pas dans quelle direction aller. Et ce qui est intéressant, moi je trouve ça un peu drôle, c'est que les mouches, elles filent vers la fenêtre et puis elles se cognent contre la fenêtre. Mais elles recommencent encore et encore et encore. Elles sont paniquées et elles ne savent pas dans quelle direction aller. Et on ressemble à ça en tant qu'être humain, à des mouches qui se cognent dans la vitre. On ressemble à des bébés qui gesticulent dans tous les sens. Et je sais que vous le savez, si vous regardez votre propre vie, et si vous prenez le temps d'identifier ces frustrations, ces choses dont vous souffrez, et vous ne savez pas pourquoi elles vous causent tant d'insatisfaction, tant de frustration, pourquoi cette déception amoureuse vous fait si mal, pourquoi le départ d'une personne que vous aimiez vous fait si mal, pourquoi ça fait si mal de ne pas avoir l'argent qu'il faut pour acheter de quoi manger? Pourquoi ça fait si mal d'avoir une maison trop petite? Pourquoi ça fait si mal d'être blessé? Pourquoi ça fait si mal d'être malade? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste satisfait de ces choses puisque c'est le cours normal de la vie? Mais non, personne n'est satisfait de ces choses. Mais pourquoi? Et jusqu'à quand est-ce qu'on continuera à voler dans toutes les directions et à se cogner contre la vitre? Alors la suite du texte, d'autres parties de ce texte en tout cas, nous montrent heureusement pour nous quelle est la direction que nous devrions rechercher et quelle est la direction que recherche le psalmiste ici. Qu'est-ce qu'il recherche? Quelle est cette destination qu'il convoite? Et bien verset 2 il le dit, les demeures de l'Éternel des armées. Verset 3, les parvis de l'Éternel. Verset 4, les autels de l'Éternel des armées. Dans la Bible, un autel, c'est pas un endroit où on passe la nuit. Un autel, c'est un endroit où on fait des sacrifices. Et dans l'Ancien Testament, on offrait ces sacrifices sur une espèce de grande table immense. Les sacrifices étaient offerts là-dessus, on appelle ça un autel. Le psalmiste recherche ces choses, mais en fait, il ne recherche pas ces choses parce que ces choses, ces objets, si vous voulez, ces lieux géographiques ont de la valeur en eux-mêmes. Il les recherche, ces endroits ou ces choses, parce qu'elles sont représentatives ou emblématiques de la présence de Dieu lui-même. Ce qu'il cherche vraiment, il le dit, au verset 3, « Mon cœur et ma chair acclament ou invoquent ou interpellent le Dieu vivant. » En hébreu, « El Hayy ». C'est un terme relativement rare dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Le Dieu vivant, c'est lui que je recherche. Si je veux aller dans ses parvis, si je veux aller dans son temple, si je veux me trouver devant son autel, c'est pas parce que les objets ont de la valeur en eux-mêmes, mais c'est parce que là, je sais que c'est le lieu de la présence spéciale de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, je le disais tout à l'heure, il y avait un lieu unique, un lieu de culte unique, c'était un grand édifice qui se trouvait à Jérusalem, le temple. Et avant le temple, c'était aussi un édifice, mais c'était pas en pierre, c'était en toile, c'était une genre de grande tente qu'on appelait le tabernacle. Et ce lieu de culte était l'endroit qui représentait, qui signifiait auprès du peuple la présence spéciale de Dieu. Et c'est un endroit vraiment intéressant parce qu'au cœur de cet endroit, il y avait une petite pièce dont on n'avait pas l'accès comme ça. Une pièce réservée, accès privé si vous voulez. Il n'y avait qu'une seule personne, une fois par an, qui pouvait y rentrer, tout ça. Mais c'est ce lieu privé, on l'appelait le lieu très très saint. Et c'était le lieu par excellence qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. La présence spéciale. La sainte présence de Dieu le Créateur au milieu de son peuple. Et c'était représenté par ça. Et donc le psalmiste, quand il dit « Moi j'ai envie d'aller là-bas », c'est pas parce qu'il veut se retrouver à l'ombre de la tente, faire du camping ou n'importe quoi. Ce qu'il veut, c'est être près de là où il y a Dieu. C'est Dieu qu'il veut. sa chair, son cœur et sa chair acclament le Dieu vivant. C'est lui que je recherche. Il y a un certain nombre d'années, avant qu'on soit mariés, Suzanne et moi, on se fréquentait. Et un été, elle est partie passer ses vacances en Suisse avec sa famille, dans une vieille cabane sombre et poussiéreuse, où il n'y avait à l'époque ni eau chaude, ni électricité, et où il y avait à cette époque-là abondance d'insectes et de souris et de petits rongeurs divers. Et il se trouve que cet été-là, les parents de Suzanne m'ont invité à les rejoindre là-bas pour passer quelques jours en leur compagnie, donc avec les parents de Suzanne et Suzanne, bien sûr. Et tout d'un coup, moi qui ne connaissais pas tellement la Suisse est devenue pour moi le pays le plus beau au monde. Et tout d'un coup, il n'y avait pas de lieu plus chic et plus confortable que cette vieille cabane en bois où il n'y avait pas d'eau chaude ni d'électricité. Pourquoi ? Pas parce qu'objectivement c'était un lieu super, mais parce qu'il y avait Suzanne. Et le psalmiste dans le texte ici, il recherche ces lieux pas parce qu'ils ont de la valeur en soi, mais parce que c'est là qu'il y a Dieu. Ce sont des lieux de rencontre avec lui, ce qu'il recherche en réalité au fond de lui-même. C'est pas un lieu de culte, c'est pas un temple, c'est pas un autel. Ce qu'il recherche, c'est la compagnie du Dieu vivant. Il veut être en compagnie de Dieu. Pourquoi ? La Bible nous explique pourquoi. La Bible nous explique que Dieu, par définition, puisqu'il est Dieu, il est le créateur de tout ce qui existe. Et donc, il est le créateur de l'homme. Et quand il a créé l'homme au départ, il a créé l'homme pour être vraiment le couronnement de sa création, le chef-d'œuvre, la pièce maîtresse de sa création. Seulement, quand il a créé l'homme était en relation personnelle, parfaite, idéale avec Dieu. Mais la Bible nous explique que l'homme a perdu cette relation. Il y a eu comme une rupture dans la relation, pas par la faute de Dieu, mais par la faute de l'homme. Parce qu'on a préféré vivre indépendamment de lui, dans l'autonomie. Et à ce moment-là, beaucoup de choses se sont détériorées. Et c'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui encore l'homme ressent cette frustration profonde. Il lui manque quelque chose de fondamental, quelque chose de vital, et je n'exagère pas. Et ce qui lui manque, c'est cette relation personnelle avec le Dieu qu'il a créé. Et c'est pour cette raison que le psalmiste ici, ce qu'il désire plus que tout au monde, ce qu'il désire par toutes les dimensions de son être, émotionnellement, spirituellement et physiquement, c'est Dieu, c'est le Dieu vivant, c'est lui qu'il recherche. Nous sommes dans le texte comme ces hirondelles, et il parle d'hirondelles à un moment donné, et il compare sa situation aux hirondelles, il dit « mais les hirondelles, elles ont un endroit où elles peuvent faire leur nid, où elles peuvent déposer leurs petits ». Mais moi, je suis loin de Dieu et j'ai envie d'être auprès de lui. Nous aussi, on a besoin de ce lieu, de ce nid, si j'ose dire, de cette sécurité, de cette relation retrouvée avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà mis ces mots-là sur votre insatisfaction ? Lorsque vous vous sentez seul, trahi, déprimé, malade, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que ce dont vous avez besoin, fondamentalement, c'est pas d'un autre verre de vin, c'est pas d'un autre antidépresseur, c'est pas d'un chèque, c'est pas d'une augmentation, c'est même pas d'un psychologue ce dont vous avez besoin, c'est même pas d'un pasteur, c'est même pas d'un bon ami, ce dont vous avez fondamentalement besoin, ce que vous êtes en train de rechercher par toutes les dimensions de votre être, par toutes vos gesticulations intérieures, ce que vous êtes en train de rechercher, c'est le Dieu vivant. Est-ce que vous avez déjà mis ces mots-là sur votre insatisfaction, sur vos frustrations ? Vous avez entendu parler de Pascal, ce philosophe et théologien, qui a dit que l'homme avait un trou dans son être, il avait un trou dans son être en forme de Dieu. Ça veut dire, en nous, on a un trou, et il a la forme de Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut prendre la place dans ce trou. Et tout ce que vous y mettrez à la place ne vous satisfera pas. Est-ce que vous avez déjà mis ces mots-là sur votre besoin ? Et donc le psalmiste, on a vu les symptômes de ce manque, on a vu quelle était la nature ou l'explication de ce manque, c'est Dieu qu'il recherche, qu'il désire. Et enfin, il va nous pointer dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'il va nous donner nous offrir le remède à ce manque. La dernière phrase de cette strophe qu'on a lue, hein, verset 5, c'est un peu ce qu'on appelle une béatitude. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Ça vous dirait d'être heureux ? Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu, ils le loueront encore. Le psalmiste évoque et a évoqué la situation du passereau ou de l'hirondelle qui, elle, est capable et a la chance de pouvoir faire son nid, sans doute sous-entendu dans le tabernacle, c'est-à-dire dans ce lieu de culte qu'avaient les Israélites à cette époque-là. Mais le psalmiste, il sait très bien que personne n'habite en fait dans le lieu de culte de Dieu à cette époque-là. C'est pas un endroit où on habite, je le disais tout à l'heure, les hôtels, c'est pas des endroits où on passe des nuits, c'est un lieu où on offre un culte. Personne n'habitait dans le temple ou dans le tabernacle. Alors comment est-ce qu'il peut dire « heureux ceux qui habitent ta maison » ? En fait, je pense que le psalmiste, il sait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il sait que le lieu de culte des Juifs à cette époque-là pointait vers autre chose, vers quelque chose de meilleur. Le temple, c'est quelque chose de temporel, quelque chose qui ne devait pas durer à jamais, quelque chose qui accompagnait des promesses que Dieu avait faites à son peuple. D'ailleurs, si vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrirez qu'au départ, Dieu a donné des instructions pour construire un lieu de culte avec des toiles, je le disais tout à l'heure, une sorte de grande tente qu'on pouvait déplacer, qu'on pouvait emmener avec soi, enfin que le peuple pouvait emmener avec soi quand il se déplaçait dans le désert. Et un jour, le roi David, le grand roi, a eu le projet de construire un temple, cette fois pas en toile, mais en pierre, un truc vraiment du costaud, quoi, avec du mortier et tout, un truc qui bougerait pas. Et vous savez, quand le roi David, le grand roi David, a eu ce projet-là, au départ, Dieu n'était pas d'accord. Au départ, il n'était pas d'accord. Vous pouvez voir tous ces détails dans l'Ancien Testament. Hein. Il ne soutient pas le projet, mais il saisit l'occasion, Dieu, pour dire, bon, une maison, il y en aura une. Un temple, il y en aura un. Mais ce n'est pas toi, David, qui va le faire. C'est un de tes descendants qui le fera. Et d'ailleurs, j'ajoute, c'est Dieu hein, qui parle, j'ajoute, David, que ce fils que tu auras, ce descendant que tu auras, il sera, quant à lui, établi pour toujours dans mon royaume. Il aura un règne qui n'aura pas de fin. Et sa maison sera indestructible. Alors David, il n'a pas construit de temple. Son fils, Salomon, il a construit un temple. Mais le fils de Salomon, son règne n'a pas été éternel. Son règne a mal fini. Et en fin de compte, dans l'histoire, le temple a été détruit. Et il n'a pas été reconstruit à ce jour. Mais faisons un saut dans l'histoire. Et l'apôtre Jean, cette fois dans le Nouveau Testament, commence à nous raconter l'histoire de Jésus. Et il nous dit ceci. Parlant de Jésus, il dit « La parole a été faite chair, c'est Jésus qui s'est incarné, qui est venu parmi les hommes, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Mais le mot que l'apôtre Jean emploie pour dire « habiter », c'est un mot qu'il invente, qu'on pourrait traduire « tabernacler ». Autrement dit, Jésus a été un tabernacle parmi nous, et ce tabernacle, c'est le mot technique qui désigne le lieu de culte des Israélites dans l'Ancien Testament, avant la construction du temple. Ce que l'apôtre Jean est en train de dire, tout simplement, pour faire court, c'est que Jésus, c'est le descendant de David que Dieu avait promis, qui serait le vrai constructeur du vrai temple, et celui dont le règne aurait pas de fin. D'accord ? Et là, l'apôtre Jean nous le dit clairement. Autrement dit, le lieu de culte dont il est question dans le psaume 84, et que le psalmiste désire si ardemment, et qu'il fait équivaloir avec la présence même de Dieu, tout cela pointe vers Jésus dans le Nouveau Testament. Ce que le tabernacle ou le temple annonçait dans l'Ancien Testament, ce que le psalmiste convoitait tant, c'est-à-dire la compagnie même du Dieu vivant. Dieu a réalisé tout ça pour nous à travers Jésus. Le psalmiste désirait ardemment la compagnie de Dieu. C'était sa destination finale, la destination qu'il visait. Mais il savait bien qu'il ne pourrait jamais habiter dans le lieu très très saint. Accès réservé, personne ne pouvait rentrer. Il savait bien qu'il ne pourrait jamais y habiter. Et pourtant, le psalmiste nous pointe dans la bonne direction, dans la direction de celui qui réalise ce temple pour nous, qui réalise la présence de Dieu dans notre vie pour nous, à savoir Jésus. Comment est-ce qu'il a fait ? Ce qui séparait les hommes de Dieu, c'était leur faute. Je le disais tout à l'heure, leur désir d'indépendance, le fait que finalement on a tourné le dos à Dieu. C'est comme ça que la relation avec Dieu a été brisée. Mais Jésus est venu pour réparer cela. Il est venu porter sur lui le poids de nos fautes, payer à notre place le prix de nos fautes, en mourant à la croix. Et il est venu pour vaincre à notre place la puissance du mal et la puissance de la mort. Et il l'a fait en ressuscitant tout cela pour que nous, on puisse pénétrer dans le lieu très 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 saint, dans la présence même de Dieu, dans sa sainte présence. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix? Le voile qui séparait le lieu très 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 saint du reste du temple, ce voile qu'on pouvait passer qu'une fois par an, encore c'était juste une personne bien particulière qui pouvait le faire pour offrir un sacrifice particulier. Ce voile-là a été déchiré de haut en bas, une fois pour toutes. Et c'est ce qui montre, et c'est ce qui prouve que c'est par Jésus, et Jésus seul, en vertu de sa mort et de sa résurrection, que n'importe qui place sa confiance en lui peut s'approcher de Dieu et pénétrer dans ce lieu très très saint et être en compagnie du Dieu vivant pour l'éternité. C'est en Jésus seul que s'accomplissent tous les espoirs du psalmiste au psaume 84. C'est grâce à Jésus qu'il peut habiter pour toujours dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu a quelqu'un qui est établi sur elle, c'est Jésus, et établi pour toujours, c'est Jésus. Heureux ceux qui habitent ta maison, verset 5, ils te loueront encore. Alors vous voyez, ce premier couplet du psaume 84 nous parle de la destination finale du pèlerin. Il est en voyage, le pèlerin, mais lui, il sait où il va, il sait ce qu'il vise. Et est-ce que vous, ce soir, vous savez ce qui vous manque dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà mis ces mots-là sur vos frustrations, sur vos peines, sur vos souffrances, ce qu'il me manque fondamentalement, c'est la compagnie du Dieu vivant, c'est sa sainte présence, c'est d'appartenir à sa maison et d'y appartenir pour toujours, c'est ça qui me manque. Bien sûr, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir, bien sûr, j'ai besoin d'amis, de famille, mais toutes ces choses ne me garantiront jamais l'accès au lieu très 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 saint, auprès de Dieu lui-même. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Saint Augustin encore, et c'est Jonas qui l'a cité il n'y a pas très longtemps, Saint Augustin qui a dit « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne trouve pas le repos en Dieu. » Je voudrais terminer simplement en lisant ces quelques versets tirés de... Je faisais référence à l'évangile selon Jean tout à l'heure, et c'est un peu plus loin dans son évangile. Et c'est Jésus qui parle ici, et il parle à ses disciples. Il parle à des gens qui veulent le suivre, des gens qui veulent lui faire confiance. Et il leur dit ceci. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Alors Thomas, c'est un des disciples, lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Ah, le pèlerin, il ne sait pas comment y aller. Alors écoutez bien la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen.